Une bonne nouvelle d'après Marc. Lecture suivie de l'évangile de saint Marc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Le 7e épisode nous a emmenés sur la montagne de la Transfiguration, vous vous rappelez. Lorsque soudain Jésus se révèle au-delà de son apparence. Et puis nous sommes descendus pour guérir cet enfant possédé par un démon sourd-muet qui ne pouvait être délivré que par la prière. Voyons la dernière étape de Galilée avant de monter à Jérusalem. Allons-y.
Partir, revenir, ils se remirent en route direction le sud, Judée et Transjordanie. De nouveau les foules l'assaillaient. Encore et toujours il leur parle. Tiens, pour changer, voilà des pharisiens. Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme? Une véritable agression. Mais Jésus a l'habitude de leur manière. Que vous prescrit Moïse? Moïse permet d'écrire un acte de rupture et de renvoyer. C'est à cause de la sclérose de votre cœur qu'il vous a laissé cette permission. Mais au commencement, mâle et femelle, il les créa, sur quoi l'être humain abandonne son père et sa mère, et ils ne sont tous deux qu'une seule chair. Alors, ce que Dieu a uni, qu'un homme ne les sépare pas. Encore une fois, il leur avait cloué le bec. Une fois rentrés, les compagnons reviennent pourtant à la charge. Qui renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et qui renvoie son mari et en épouse un autre commet un adultère. Eux étaient moins étonnés de sa logique que d'entendre mettre l'homme et la femme sur le même plan, dans une égalité totale de justice et de faute. Quelle révolution dans leurs mœurs! Les passants venaient lui présenter leurs petits-enfants pour qu'il leur impose les mains. Croyant bien faire, les compagnons les rabrouaient. Mais Jésus s'en aperçut et s'en irrita. « Laissez les petits venir à moi. Ne les empêchez pas. Il est pour leur pareil, le règne de Dieu. Je vous dis que si on n'accueille pas le règne de Dieu comme un enfant, on n'y entrera pas. » Et il les prenait dans ses bras et les bénissait en leur imposant les mains. Jésus ne tenait pas en place. Le voici maintenant sur la route. Un jeune homme le rattrape, tombe à genoux et lui demande « « Bon maître, que dois-je faire pour mériter la vie qui ne finit pas ?» Jésus, quasi sans le regarder, réplique « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Seul Dieu est bon. Tu connais les commandements, et d'une façon mécanique, comme à un élève oublieux, il récite « Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne fais pas le témoin de mensonge, ne fraude pas, glorifie ton père et ta mère. » Le jeune homme n'en peut plus. Il se relève, déçu, presque blessé. Il le coupe soudain « Maître !» Sa voix est comme altérée. Tout cela, je l'observe depuis tout petit. Alors, enfin, Jésus le fixe. On voit qu'il se met à l'aimer. Il te manque quelque chose. La voix est chaude maintenant, presque confidentielle. Tu vas aller vendre tout ce que tu possèdes, et l'argent, tu le donneras aux pauvres. Cela t'ouvrira un compte au ciel. Le jeune en est tout abasourdi. Et pourtant, il n'a pas encore reçu le coup de grâce. Après, viens avec moi. Le visage de Jésus est devenu grave, celui du jeune homme sombre et douloureux. Le grand garçon recule, tourne les talons et s'en va tout triste. Il était riche. Et tandis qu'il s'éloigne, Jésus regarde à la ronde ses compagnons ébahis et murmure « Comme il est difficile quand on a trop d'entrer dans le règne de Dieu ». Peut-être le jeune homme a-t-il encore entendu. En tout cas, il ne se retourne pas. Maintenant, ce sont les compagnons qui sont effrayés. Cela n'empêche nullement Jésus de continuer sur le même ton. Mes enfants, il est toujours difficile d'entrer dans le règne de Dieu. Un chameau passe plus facilement par le trou de l'aiguille. Non, d'une porte basse de la ville, où tous devaient mettre pied à terre et les montures rentraient presque à genoux, car c'était le poste de douane et de police. Cette fois, leur consternation est extrême. « Qui peut entrer alors ? » demande-t-il à la limite de l'angoisse. Jésus, l'œil fixe sur un horizon qui lui seul entrevoit, répond doucement mais fermement. « Pour l'homme, c'est impossible, mais pas pour Dieu. Oui, tout est possible à Dieu. » Alors Pierre enchérit. « Et nous, nous avons tout de même tout laissé pour te suivre. » Lui, en tout cas, avait laissé maison, enfants, belle-mère, famille, peut-être était-il veuf. Jésus revint à lui, et posant la main sur l'épaule de Pierre, son aîné de plusieurs années, « Écoutez-moi bien. Personne ne laisse maison, frère ou sœur, père ou mère, enfant ou champ, à cause de moi et à cause de ma mission, sans recevoir au centuple. Déjà maintenant, maison, frère et sœur, mère, enfant et champ, bien sûr, avec des tas de problèmes. Et ensuite, la vie qui ne finit pas. Beaucoup de premiers finiront derniers, et les derniers, premiers. » Et sur ces mots, il prend la route de Jérusalem, la capitale. Comme toujours, il est en tête, seul. Tous ont peur, même ceux qui les suivent de plus loin. Jésus sent qu'il doit faire quelque chose. Soudain, il s'arrête, prend les 12 autour de lui et leur explique tout ce qui va arriver. Vous voyez, nous montons à Jérusalem. Le Messie doit y être livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le feront condamner à mort, et ils le livreront aux païens. On le bafouera, on lui crachera dessus, on le fouettera, et ils le tueront. Et après 3 jours, il se relèvera d'entre les morts, il ressuscitera. Ils étaient bien sûr impressionnés, mais pas tous au point de perdre le sens de leur intérêt. La marche avait repris. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, ceux qu'ils avaient appelés le premier jour, ceux qu'il emmenait toujours avec lui pour les grandes occasions, la résurrection de la fille de Jaïr, la transfiguration sur la montagne, Jacques et Jean, les fils du tonnerre, le rattrapent et l'interpellent. « Maître !» Jésus se retourne et les attend. « Nous voulons que, quoi que nous demandions, tu nous l'accordes. » Silence de Jésus. Fais de nous tes seconds une fois ressuscités. » Tout simplement, il se plaçait. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous passer par où moi je dois passer? Pouvez-vous recevoir le baptême de sang que je vais recevoir? Oui? Eh bien, soit. Là où je dois passer, vous y passerez aussi. Et le sang que je vais verser, vous le verserez aussi. Oui, ils mourront martyrs tous les deux. Mais quant à être nommé mes seconds, ce n'est pas moi de l'accorder. Cela reviendra à tous ceux qui s'est destiné. Les 10 autres en avaient entendu assez, tellement le ton était véhément pour montrer une grande hostilité envers Jacques et Jean. Jésus n'en revient pas. Alors qu'ils montent à la mort, eux, il les convoque tous immédiatement autour de lui. On s'assoit sous un arbre, en colère. Vous le savez bien, les soi-disant chefs des nations les dominent en effet, et les soi-disant grands exercent de haut leur autorité sur elles. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Quiconque d'entre vous veut devenir grand, qu'il se fasse votre serviteur, et qui veut être le premier de tous, doit se faire le serviteur de tous. Oui, même le Messie n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et verser son sang pour les autres. On est en vue de Jéricho. Ils ont suivi le cours du Jourdain depuis le lac. Jérusalem est sur la montagne au-dessus de l'oasis, ils y monteront demain. À la porte de la ville des palmes, alors que déjà la foule l'assiège, malgré la protection rapprochée qu'exercent ses compagnons, il y a à sa place habituelle le fils de Timée, Bartimée, un aveugle. Il est assis dans la poussière du passage. Il entend que c'est Jésus de Nazareth qui entre dans la ville. Et il se met à hurler de toutes ses forces. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» On veut le faire taire, il gêne avec ses cris, mais il hurle de plus belle. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus a très bien entendu. Il stoppe net. « Appelez-le !» Alors, on appelle l'aveugle. « Allez, courage ! Lève-toi ! Il t'appelle !» Et voilà que le prodige a déjà fonctionné. Bartimée rejette son manteau de misère et bondit vers Jésus qui se trouve à plusieurs mètres de lui. Tout le monde a déjà compris qu'il voit désormais et qu'il n'est plus aveugle puisque... Que veux-tu que je fasse encore pour toi ?
Ah, mon bon maître, je veux voir.
Mais ta foi t'a déjà guéri.
Et alors il se rend compte qu'il voit. Et fou de joie, il se met à le suivre sur la route en chantant et en dansant.
Voilà trois épisodes, trois péripéties où les acteurs sont dans une situation, où ils ne savent pas où ils en sont, ou s'ils voient ou ils ne voient pas, s'ils comprennent ou pas. Ce jeune homme riche qui veut tout, qui est prêt à tout et qui finalement recule, il ne s'était pas rendu compte de la radicalité de l'engagement auprès de Jésus. Ceux qui courent devant lui, les fils de Zébédée, ne se rendent pas compte que rien ne dépend des hommes, même du Fils, que tout dépend de Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils demandent. Quant au troisième, l'aveugle de Jéricho, il ne sait pas qu'il voit déjà, il ne sait pas que sa foi l'a déjà sauvé. Jeune homme riche, fils de Zébédée, aveugle de Jéricho, voilà trois types de comportements qui sont en fait les mêmes. Face à Jésus, rien ne va plus. Face à Jésus, on est étonné par ce qu'il va nous répondre. Face à Jésus, on se rend compte que lui-même, en tant que fils, est soumis et dévoué à son Père. Face à Jésus, qui réalise avant même qu'on lui demande quoi que ce soit, on est déjà satisfait, on est déjà récompensé. C'est la montée à Jérusalem. L'évangile suivant, nous y serons, le drame va éclater. Mais il fallait avant cela qu'on sache une troisième fois que le Fils de l'homme devra être livré aux autres hommes, mis à mort, et que le troisième jour il ressuscitera. Montons avec lui à Jérusalem.
C'était Une bonne nouvelle selon Marc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.